Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode est le troisième de trois podcasts qui font partie du projet Ames Film Fellowship et a été enregistré par Zoom le 1er juin 2023. Dans ce podcast, Kenza Benazouz, la Ames Film Fellow, s'entretient avec Shiraz Latiri, ancienne ministre des Affaires culturelles en Tunisie et directrice du Centre national du cinéma et de l'image, CNCI, entre 2016 et 2019, sur le cinéma tunisien post-révolutionnaire, une vue d'ensemble, un regard intérieur.
Bah, merci beaucoup, Shiraz, de faire du temps pour ce podcast. Et pour commencer, je voulais demander si tu pouvais te présenter un peu brièvement ton rapport au cinéma et puis au monde de la culture de manière plus générale en Tunisie.
Avec plaisir. Alors, moi, mon histoire, elle est un peu atypique. Au fait, je suis docteur en informatique, professeur d'université à l'université de la Manouba et particulièrement à l'Institut supérieur des arts multimédia. Donc, mon histoire, elle est atypique dans le sens que moi, je viens du monde des sciences exactes. Donc, fondamentalement informaticienne, où j'ai fait des études d'IA et un doctorat en informatique. Donc, avant, mon rapport avec la culture, d'une manière générale, en Tunisie, était plus un rapport citoyen. J'étais comme tous les jeunes de ma génération, très ravi de voir des films tunisiens, de lire des livres, d'aller voir des pièces de théâtre. Et j'étais aussi très attentionné à ce que mes enfants aussi partagent ça et on les a élevés un peu à voir aussi toutes ces productions tunisiennes jusqu'à ce qu'en 2005, j'ai été nommée directrice de l'Institut supérieur des arts multimédia. Et j'étais avant à l'école supérieure de commerce, je m'occupais de l'amiage là-bas. Et dans cette école, il y avait trois gros départements. Le département d'informatique, un peu le plus gros département en termes de nombre d'étudiants. Et il y avait un département de multimédia, il y avait un département de cinéma, qui était le département, il y avait le moins d'étudiants, mais c'était le département qui nécessitait le plus d'attention et d'engagement de la part d'un directeur. En plus, il n'y avait pas de chef de département à l'époque. Il y avait un problème de chef de département. Et ça coïncidait avec le passage de régime de DUT au régime LMD, au fait. On passait de régime maîtrise au régime LMD. Et on avait profité pour faire toute la mise à niveau de la pédagogie d'enseignement du cinéma. Et on avait conduit cette mise à niveau avec la prestigieuse école de cinéma européenne qui est l'INSAS de Bruxelles. Et à partir de ce moment-là, a commencé l'aventure où moi, je suis plus dans les stratégies hein, et dans les montages de projets. Je ne peux pas prétendre que je suis ni cinéaste, ni critique cinéma, ni rien. Mais je suis vraiment foncièrement dans les stratégies, dans les politiques culturelles et dans les montages de projets structurants et structurels, on va dire. Et donc, c'était à ce moment-là où l'école s'est ouverte un peu au monde professionnel et aux institutions publiques où il fallait absolument que cette formation soit en adéquation avec les attentes des jeunes et avec l'offre aussi sur le marché. Et à ce moment-là où il y a eu cette grande connexion avec, si on parle cinéma hein, particulièrement, avec le milieu professionnel cinématographique. Et à partir de ce moment-là, je commençais un peu à réfléchir sur comment je voyais un peu les politiques culturelles en Tunisie. C'est un projet que j'ai porté au moins pendant, jusqu'à ce que j'ai intégré le gouvernement de Elias Farfaire. C'était un projet des réflexions qui ont beaucoup évolué en moi. Il y a eu entre-temps la révolution, donc il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu la liberté d'expression, la liberté de créativité, cette dynamique qui s'est installée. Et donc c'était une vraie dynamique de réflexion dans ma tête, que je garde jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, j'ai pris un grand plaisir de 2006 jusqu'à fin 2011 à conduire un peu ces changements un peu dans la formation pédagogique, dans les trois différents départements d'ailleurs, hein, parce qu'on a été quand même assez visionnaire. On avait manqué le diplôme d'ingénieur pour les jeux vidéo et la réalité virtuelle, et qui s'avère qu'aujourd'hui, on a des petits marchés, mais il y a une industrie en Tunisie relative à ces produits, on va dire, culturels. Voilà, ça a commencé comme ça. Et après, en 2017, j'ai été appelé pour être à la tête du CNC tunisien. Et donc, c'est là où j'étais de l'autre côté. Donc, je ne suis plus en amont dans la formation, mais au cœur de l'industrie. Donc, toutes ces réflexions que j'ai essayé de développer tout en étant en dehors du côté de la formation, je me retrouve au CNC tunisien de 2017 jusqu'à fin 2019. Et ça m'a permis également de mettre en place une certaine dynamique aussi de changement, dans le sens où il fallait vraiment que ce centre donne des vraies réponses à des vrais opérateurs de différentes générations qui sont assez actifs dans le secteur, que ce soit techniciens, réalisateurs, producteurs, donc tous les corps de métier dans ce secteur, et surtout à regarder de très près la chaîne de valeur de ce secteur qui bouge. On parle aujourd'hui de nouveaux business models. On a aussi un film d'auteur qui nous rend très heureux et très fiers dans le monde. Donc, il fallait aussi accompagner cette dynamique. Surtout après la Révolution, il y a eu une explosion incroyable d'offres culturelles et d'offres cinématographiques. Et après, donc 2020, j'étais à la tête du ministère de la Culture. Ça a duré que 7 mois. Mais pareil, les choses se dessinaient encore mieux, on va dire, parce que j'avais la chance d'être dans un gouvernement qui est venu avec un vrai esprit réformiste, et surtout avec un chef de gouvernement qui avait un leadership incroyable, qui poussait un peu à conduire des politiques de changement. Sauf que bon, c'était un contexte politique assez particulier, assez sanitaire également. On était en plein crise Covid. On a fait des choses. Moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait, hein, sincèrement. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Après avoir quitté le gouvernement, j'ai jamais quitté l'université, évidemment. J'ai jamais quitté l'ISAM, mais je ne suis pas dans le département cinéma. Moi, je suis prof au sein du département d'informatique. Mais ce que j'ai gardé, au fait, après avoir quitté le gouvernement, après la démission du gouvernement, j'ai pris quand même un temps où j'ai essayé de ramasser un peu tous mes retours d'expérience et de faire une certaine lecture, à la fois critique, mais aussi de valoriser un peu ce qui a été bien, voir ce qui n'avait pas fonctionné. Et donc là, je suis plus du côté de la société civile, donc dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association de multimédia et de diffusion, une association que j'ai créée en 2008, qui s'avère aujourd'hui une vraie task force dans tout ce qui est métier des industries de l'image créative. Ça va du film jusqu'aux expériences immersives, VR, jeux vidéo, plateformes numériques. Et donc là, on monte un grand programme, un super programme qui s'appelle le programme Tassir. Tassir en arabe pour dire tu marches, donc la dynamique du mouvement est avancée sur un chemin, sur un chemin d'un projet de vie. Et en français, c'est l'abréviation de T comme talent, A comme art, C comme créativité, I comme image et inclusion, parce que l'industrie de l'image aujourd'hui est l'industrie, je pense, qui s'impose un peu dans les industries créatives. Et R pour dire à la fois résilience et recherche, parce que dans le programme, il y a aussi une dimension de recherche assez intéressante.
Merci beaucoup, Shilaz. Je vais revenir sur quelques points que tu as mentionnés, notamment le fait que la Révolution ait un petit peu propulsé ou en tout cas changé la direction du cinéma en Tunisie dans le sens de la liberté d'expression qui a été acquise pour les cinéastes et autres, enfin, et même au sein du public. Et je voulais savoir si tu pouvais m'en dire un petit peu plus sur ces changements-là en termes des thématiques du cinéma tunisien ou même du style de films qui ont été produits depuis la Révolution, s'il y a des changements que tu as observés.
Au fait, bien sûr, ce qui est clair, c'est qu'après la Révolution, 2011 a fait que tous les artistes, hein, cinéma ou autre, il n'y avait plus de tabou, il n'y avait plus de sujet tabou, il n'y avait plus de récits interdits. Et du coup, on avait observé une certaine liberté dans l'offre culturelle, dans la proposition des récits, et qui était complètement libérée. Et on a vu une certaine aussi diversité par rapport aux expressions artistiques et culturelles, qui a fait que on a eu la chance de voir plusieurs films, documentaires, courts-métrages, et surtout 2011, 2016, on va dire, on a vu quand même une grande richesse au niveau de l'offre cinématographique. Donc évidemment, ça fait que c'est un vrai dispositif de diplomatie culturelle, parce qu'on voyait les films voyager, aller dans les grands festivals, recevoir des prix incroyables, des distinctions qui nous rendaient hyper fiers. Ben, récemment, Kawthar Ben Haney, elle a été quand même dans la sélection officielle de Cannes. Évidemment, ça propulse une dynamique dans le secteur, et ça rejoint aussi la dynamique économique aussi du secteur. Donc c'est une chaîne, c'est une vraie chaîne de valeur.
Tu parlais aussi des changements dans la configuration politique en Tunisie actuellement. Est-ce que, en considération de ces changements, est-ce que récemment tu as l'impression que les acquis, de la révolution en termes de liberté d'expression sont encore, sécurisés, ou est-ce qu'on sent qu'il y a quelques changements, ou une attention de la part des cinéastes à faire attention à ce qu'ils expriment, ou des artistes de manière générale? Et un petit peu en relation à cette question, est-ce que, les tabous qui ont été désamorcés suite à la révolution sont encore, enfin, est-ce qu'ils se débattent encore? Est-ce qu'il y a encore des difficultés à discuter de certains sujets, qu'il s'agisse de personnes cuir, de racisme, de peu importe les questions, est-ce qu'il y a des tabous qui persistent?
Au fait, je suis très perplexe, dans le sens que la révolution de 2011, c'est-à-dire de 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a une libération dans certains potentiels créatifs des jeunes Tunisiens, des Tunisiens d'une manière générale. On ne va pas dire jeunes et moins jeunes, et il y a eu même des cinéastes de la deuxième et la troisième génération qui se sont exprimés avec des films inédits. Et donc, depuis 2011, on s'est habitué à de nouvelles formes d'expression artistique, parce qu'il y a eu une émergence de nouvelles formes d'expression artistique, du film jusqu'au street art, jusqu'à la vidéo, les graffitis, le slam, le rap. Et donc, ils ont forcément, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une vraie exploration de sujets. C'est vrai qu'avant, c'était considéré comme des sujets interdits ou tabous. Et ben, depuis 2011, on n'a plus. Dans le mindset un peu, surtout de la nouvelle génération, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus d'interdit, et qu'on peut se permettre de parler de tout et de s'exprimer artistiquement de tout sujet qui nous semble, dans la mesure qu'on ne dépasse pas certaines lignes rouges, enfin, de diffamation. Et donc cette dynamique, moi j'ai un peu peur pour cette dynamique, parce que je vois une petite régression dans le sens, en fait, je me base sur des faits. Si on prend le cas de la vidéo, des trois jeunes qui ont chanté une chanson un peu sarcastique, ou quand même qui a créé une grosse polémique, et il a fallu que le président de la République intervienne. Ben ça me fait peur, parce que je pense que on a aussi loupé une grande étape très très importante. Il fallait accompagner cette liberté d'expression et cette libération du potentiel créatif des Tunisiens par aussi un grand travail d'éducation et d'initiation aux différentes formes artistiques et aux éducations au pluriel. C'est pour ne pas être dans le jugement, pour ne pas être dans la censure. Et donc ça, bon, aujourd'hui, je suis inquiète, on va dire. Je suis inquiète, mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a toujours cette mobilisation. À chaque fois quand il y a eu des dépassements, il y a cette mobilisation de la société civile, des communautés qui se soulèvent et qui s'indignent pour dire non, ça c'est de la liberté, c'est ma liberté de s'exprimer à travers n'importe quelle expression artistique que je maîtrise, quoi, en tant que citoyen.
Et en parlant d'autres types de changements qui ont marqué le cinéma après la Révolution, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au sujet du Centre national du cinéma en Tunisie? Comment est-ce qu'il a vu le jour? Comment ce projet a été lancé? Et quelle est sa finalité? Et quelle fonction joue-t-il aujourd'hui dans le cinéma?
Alors, le CNCI tunisien, le Centre national du cinéma et de l'image, c'était la demande, au fait, du secteur pour laquelle ils ont milité pendant deux, trois décennies. Hein. C'était une demande sur laquelle ils reviennent à chaque fois. Et ce centre, qui est donc un établissement public à caractère non administratif, un peu à l'image du CNC tunisien, il a été créé après la Révolution. En 2011, il y a eu cette mobilisation pour la création du CNCI. Et donc, en gros, la principale mission, c'était la mise en œuvre des politiques publiques et surtout donc de tout l'arsenal juridique pour le secteur cinématographique et de l'animation, et aussi la promotion du cinéma tunisien et l'accompagnement des producteurs et des cinéastes. Donc, au fait, il a été créé fin 2011 en vertu du décret-loi. Il y a eu après, en 2012, le texte qui organise un peu les missions du CNC. Et réellement, c'est en 2014 que le CNC s'est établi. Ils ont commencé à travailler un peu timidement. Et l'explosion, on va dire 15-16, le centre commençait à avoir une certaine autonomie. Il y a eu un budget du personnel, il y a eu le recrutement de son équipe. Et donc moi, quand j'ai débarqué en 2017, c'était un peu un tournant dans le sens qu'on a déménagé au cœur de la Cité de la Culture, on a créé la Cinémathèque et on a commencé un peu à organiser un peu les missions du centre, son organigramme, parce que tout ça, il n'y avait pas vraiment... c'était un peu l'œuvre inachevée, quoi, jusqu'à aujourd'hui, moi, je trouve. C'est toujours l'œuvre inachevée. Est-ce qu'il y a toujours ce problème entre les prérogatives du centre qui sont encore chez la direction générale de l'audiovisuel au ministère des Affaires culturelles et qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve face à le monstre à deux têtes parce que le cinéaste ou le producteur, il ne sait plus à qui s'adresser, au fait. Donc, il y a un peu ce mélange un peu de rôles, alors que le CNC tunisien est censé être complètement indépendant, avoir toutes les prérogatives, être renforcé en matière de ressources humaines et jouer son rôle absolument comme le fait le CNC français. Voilà, donc je pense que ce problème-là reste d'actualité. Et il est aussi, je pense qu'en 2023, je pense que la première mission que doit conduire le CNC, c'est rafraîchir un peu tout le cadre juridique, tout cet arsenal de textes qui deviennent obsolètes pour accompagner un vrai secteur de l'industrie cinématographique où il y a vraiment de vraies attentes, où il y a deux, trois générations de cinéastes. Il y a quand même des jeunes, des techniciens et des jeunes techniciens qui arrivent maintenant à avoir même une renommée à l'international. Hein. Et ça fait mal au cœur si on n'arrive pas à les accompagner par des réformes assez structurantes.
Est-ce que tu pourrais nous parler d'une ou deux des réformes les plus urgentes selon ta perspective ?
Ça dépend en fait. Est-ce qu'on va parler des réformes qui touchent le financement du secteur cinématographique ou on va parler plus des réformes qui vont accompagner le statut de toute personne ou tout cinéaste, enfin, tout corps de métier qui intervient dans ce secteur ? Parce que moi, je pense que les réformes, on doit les conduire à différents niveaux. En fait, c'est-à-dire que moi, je pense que les réformes doivent toucher un peu toute la chaîne de valeur où on a l'auteur, le producteur, le distributeur, l'exploitant, jusqu'à arriver même aux critiques, quoi, et aux citoyens, au public. Donc moi, je pense que l'auteur, aujourd'hui, il est très, très peu accompagné. C'est-à-dire qu'un cinéaste qui vient avec un projet d'un film, il n'y a pas du tout de dispositif pour l'accompagner à l'écriture ou pour l'accompagner au développement. Et surtout, son statut de scénariste ou de réalisateur reste toujours très précaire. C'est-à-dire qu'il se retrouve souvent dans des situations dans la précarité. Et ça, on l'a beaucoup vécu, on l'a vu en face. Et d'une manière très douloureuse au moment du Covid. Si on va aller du côté du producteur, et là on parle plus modèle économique de chaque production et comment elle gère un peu les prods. Et donc là, on va parler du fonds qui est dédié à la production cinématographique, qui à la fois reste insuffisant quand on voit un peu la dynamique du secteur, mais qui doit aussi être réfléchi pour passer au système de l'avance sur recette et pour aussi accompagner un peu toutes ces prods pour aller aussi vers d'autres fonds, même des fonds à l'international, développer les accords de coproduction, qui n'est pas le cas pour le moment, ce n'est toujours pas assez. Et aussi, il faut en parallèle développer le réseau des salles de cinéma, pouvoir parler de billetterie, d'avance sur recette. Donc, en fait, c'est un peu l'œuf et la poule maintenant. On est un peu coincé dans cette chaîne de valeur où de plus en plus on perd d'espace de diffusion. Et quand on perd des espaces de diffusion, on va certainement pas pouvoir parler d'un modèle où on peut parler d'avance sur recette. Et donc, du coup, cette production ou ces scénarios seraient, vont être toujours assistés par l'État qui, aujourd'hui, dans un contexte de crise économique, sociale et politique, n'arrive pas à augmenter un peu les fonds pour la production cinématographique. Et donc, on est un peu coincé dans cette rareté de fonds d'un côté, un réseau de salles de cinéma qui est en train de disparaître petit à petit. On ne peut pas trop parler de plateforme VOD. Bah, on en a une seule, je pense, Artify. On ne peut pas se positionner aussi par rapport aux plateformes géantes de type Netflix. Donc, du coup, est-ce qu'on veut rester dans la diffusion classique? Est-ce qu'on doit migrer vers la diffusion digitale? Est-ce qu'il faut avoir les deux, une forme hybride? Et quelles sont les bonnes stratégies pour sauver un peu ce réseau de diffusion? Et c'est très important d'avoir des espaces de projection pour une forme de démocratisation d'accès à la culture, pour un peu réduire toutes ces inégalités d'accès à la culture, à l'éducation, aux images. Et donc tout ça, c'est un peu, c'est très problématique et tout est lié par rapport au financement. Comment on finance chaque maillon de la chaîne de valeur? Et quels sont les nouveaux business models aussi pour pouvoir financer un peu toutes ces chaînes de valeur? Évidemment, on peut toujours aussi parler de la situation de l'auteur, histoire, la fameuse problématique de la carte pro. Et donc, tout est lié au fait.
Et tu parlais également des coproductions et des difficultés à en sécuriser suffisamment. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus et potentiellement aussi nous parler de ton programme, enfin du problème que tu avais initié, Cento, et d'autres perspectives en termes de coopération panafricaine ou au sein du Maghreb?
En fait, la coproduction, c'est-à-dire que la subvention que peut avoir un producteur sur un film en Tunisie, ça va pas, ça, c'est autour de 400 000, 500 000 dinars, ce qui est toujours insuffisant pour produire un film d'auteur. Donc forcément, ils vont aller chercher des coproductions. Et souvent, les coproductions qui sont installées, on va dire, c'est soit avec la France, la Belgique, l'Italie. On n'a pas vraiment établi des accords de coproduction avec d'autres pays du Sud. Ça existe après, ça dépendra aussi du réseau du producteur. Mais officiellement, quels sont les accords qui sont signés? On a vraiment une grande liste à rattraper. C'est très intéressant qu'un chercheur prenne un peu un corpus de ces films qui ont différents modèles économiques, du genre un film qui a bénéficié de coprod et qui a eu un succès. Par exemple, le film de Kawthar Merah qui a été à Cannes, à un certain regard, La Belle et la Meute, c'est un film qui a eu des coproductions avec la France. Pareil, le film Wildi de Mohamed Ben Atteya, pareil, coprod avec la France et la Belgique. Mais on a aussi des films, par exemple, le film de Salma Bakarjeïd, totalement financé en Tunisie, et le film qui a bénéficié de la subvention de l'État, et un autre film comme Dachra qui n'a pas du tout été financé par l'État. Donc, ça serait très bien d'accompagner un peu cette dynamique de l'écosystème où on voit différents modèles économiques de production de films, ceux qui vont aller chercher les fonds du Nord, les fonds préétablis qu'on connaît tous, ou ceux qui s'autofinancent les films, ou les films low cost, comme j'ai dit, comme le film de Jilani Saadi Bidoud, ou des films qui se basent principalement sur la subvention de l'État, plus donc des financements apportés par les producteurs tunisiens. Et donc, pourquoi il faut aussi penser à un fonds panafricain et pourquoi Cento? Donc, en fait, moi, ce que j'avais remarqué, parce qu'en plus, la dynamique du cinéma, on la voit pas qu'en Tunisie aussi, on la voit aussi sur le continent. Beaucoup de films africains ont été primés ces 10 dernières années. Et en fait, il y a un potentiel créatif sur le continent qu'on ne peut pas ne pas voir et qui est tellement attirant qu'à un moment donné, on se dit, et comment on va accompagner ce potentiel? Et donc, moi, j'ai aussi remarqué, quand j'étais au CNCI tunisien, que je voyais tous les directeurs des CNC européens, ils se rencontraient, ils avaient leur structure, ils avaient leur réunion annuelle. C'est à ce moment-là que les coproductions, les accords de coproduction se construisent, que des fonds aussi bilatéraux se construisent. Et du notre côté, sur le continent, on voyait, en fait, on était plus dans des rencontres très cordiales. Bonjour, ça va. À la limite, on peut signer un accord de coopération, mais réellement, il n'y a pas de vrais projets et des vraies actions implémentées et concrètes sur le terrain. Et donc, on se rencontrait à deux, à trois au GCC, FESPACO, au CAN. Il n'y avait rien de concret. Sincèrement, il n'y avait rien de concret. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, c'est pas possible. Il faut aussi fédérer les moyens et les ressources pour pouvoir réfléchir à une vraie politique de développement du cinéma du Sud. Il y a aussi avec ce problème aussi, parce que comme il y a les films qui vont solliciter des fonds préétablis au Nord, ce qui n'est pas une mauvaise chose hein, en soi, mais il y a aussi ce danger que ces fonds interviennent dans l'histoire, dans le récit, qui perd un peu de son identité du Sud, perd de son identité locale, régionale. Il y avait un peu ce danger d'intervenir dans les récits. Mais ça reste à la discrétion du réalisateur ou du producteur, hein, de comprendre et de négocier avec les conditions du financeur et du bailleur du fonds. Mais aussi, de dire pourquoi il y a autant de fonds du côté du Nord et pourquoi ne pas créer aussi des fonds du côté du Sud et des fonds Sud-Sud et des initiatives Sud-Sud et surtout le faire autour des CNC en Afrique, c'est-à-dire que ce n'est pas normal sur un continent comme l'Afrique où on a autant de potentiel créatif et des cinéastes qui hissent les drapeaux de leur pays dans des grands festivals qui apportent des distinctions incroyables. Pourquoi il n'y a pas une vraie stratégie, une réflexion politique autour de ces CNC et pour commencer à créer des initiatives structurantes et voire même créer des fonds pour les auteurs du Sud et les films du Sud. Et donc, Saint-Ouen a été initié et pensé dans cet esprit. L'idée, c'est que à créer un réseau des CNC, on a commencé par un programme qui est le programme Saint-Ouen, qui va accompagner l'auteur pour le développement de son projet, mais sur une année, c'est-à-dire ce n'est pas une seule résidence, mais trois résidences, jusqu'à ce qu'il arrive à achever son dossier de production. On l'accompagne de l'écriture jusqu'à l'élaboration de son dossier de prod. Et on choisit un auteur par pays de ceux qui ont adhéré au projet, avec une contribution des CNC où ils prennent en charge une bourse de développement de 5 000 euros pour chaque auteur, et plus ses titres de transport quand il va se déplacer, comme il y a trois résidences, donc chaque fois c'est dans un pays, des pays adhérents du programme, et donc son titre de transport. Et de l'autre côté, donc le comité de pilotage du programme, il lève des fonds pour financer les résidences et payer les mentors et donc tout ce qui va avec tous les frais d'une résidence. Et donc ça a été pensé dans cet esprit-là. Et moi, je pense que c'est un programme qui est très intéressant. Il y a deux projets qui de la première édition qui sont déjà produits. Il y en a un qui a eu même une distinction au FESPACO, un autre qui est à Cannes, dans un des ateliers ou des sections. Donc, et ça fait vraiment plaisir. Et de toutes les manières, c'est ce type de projet qu'il faut mettre en place pour créer une dynamique, créer un premier cluster. Ce cluster va s'agrandir. On passe d'un fonds de développement à un fonds de production. C'est toute une stratégie qui prend quelques années pour s'installer et surtout pour accompagner des cinéastes qui n'ont pas forcément le réseau nécessaire pour réaliser leurs rêves et faire leurs films. Et donc, ce type de projet dépend de beaucoup, hein, beaucoup de la volonté politique. Il faut avoir une vraie politique, faut avoir un portage politique, dire voilà, ça c'est intéressant pour nos pays si on veut se positionner dans une vision sud-sud. Et ça ne veut pas dire qu'on exclut toutes les coopérations sud-nord, bien au contraire. Ceci n'exclut pas cela, au contraire. c'est se confirmer déjà dans son identité du Sud et aussi être complètement ouvert avec toutes les propositions et les initiatives du Nord qui ne peuvent que enrichir notre écosystème et notre paysage cinématographique. On est aussi un pays méditerranéen, donc on a aussi d'autres ouvertures. Et cette identité plurielle de la Tunisie ne peut être qu'une source de richesse pour n'importe quel secteur culturel et artistique.
Et comment tu sens que cette perspective qui était si chère et qui est au fondement de beaucoup de tes efforts de réforme dans le secteur sont perçues par la plupart des cinéastes? Bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup de réceptivité et de tendance en faveur de ces perspectives-là, ou est-ce que enfin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Franchement, je ne suis pas, j'ai pas fait de sondage, sincèrement. Bon, après, c'est vrai qu'au moment où ces réformes étaient en train d'être mises en place, et même après, il y a eu quand même une adhésion. En fait, le secteur est partagé, malheureusement. Le secteur est partagé, et c'est ce qui, moi, je pense, à mon avis, c'est ce qui freine un peu sa structuration. C'est partagé parce qu'il y a ceux qui ont très envie d'une vraie, un vrai développement, du secteur. Par des réformes juridiques, par le montage de types de programmes qui nous ouvrent un peu vers le sud et vers le nord. C'est partagé parce qu'il y a ceux qui veulent rester un peu dans le schéma du cinéaste assisté et dans le schéma de l'État de providence culturelle qui n'existe plus, malheureusement, il n'existera plus dans ce contexte de mondialisation, de crise, de multiples crises en Tunisie. Je ne pense pas que. Bah, il n'existe plus déjà et je ne pense pas qu'on reviendra un jour à l'état de providence culturelle. Et donc, il y a un peu ce débat, je pense, au sein du secteur. Après, moi, j'ai reçu des retours où les gens, ils adhéraient vraiment, ils regrettent un peu que cette dynamique s'est arrêtée. Mais j'ai eu aussi des critiques du genre, ce n'est pas ça ce qu'on veut, quoi. Il faut multiplier le fonds d'encouragement au cinéma, il faut que l'État soit l'État qui un peu le mécène de toutes les initiatives du secteur. Voilà, mais je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne vois pas une vraie réaction d'ailleurs hein, du secteur. Ils sont assez. Il y a une forme d'arrêt comme ça. On n'avance pas vraiment, quoi. Je n'ai pas vu de réforme, je n'ai pas vu de nouveaux projets structurants. C'est peut-être lié au contexte de crise économique au pays, mais on verra après.
Et est-ce que tu ressens que justement les diverses crises qui frappent un peu la Tunisie, bon, à part celle du Covid-19 bien sûr qui ont affecté toutes les nations quoi, est-ce qu'il y a on ressent du côté des partenaires de la Tunisie, donc que ce soit l'Europe ou d'autres, mais principalement l'Europe, un changement de positionnement par rapport au soutien qui est fourni à la Tunisie depuis un peu les complications que traverse le pays?
Je pense qu'il y a quand même des questionnements assez importants hein, par rapport aux différents soutiens, différentes aides. Mais moi, je pense que si on se concentre sur le secteur culturel, les aides continuent puisqu'il y a l'accompagnement de l'Union européenne par le programme You for Youth, où il y a le programme Mahroumine, enfin, les initiatives au secteur continuent. Hein. Je pense pas qu'il y a eu, par rapport à la culture, l'accompagnement, enfin, le soutien continu par les différents mécanismes et les fonds qui sont déjà établis. Après, sur un niveau plus macro, quel sera le choix de la Tunisie par rapport à ses aides? Comment on va s'en sortir par rapport à la décision, par rapport au FMI bah, tout ça, c'est très politique. Hein. Je n'ai pas tous les éléments de réponse, mais ce que moi je crois, au-delà de cette crise, on va dire multiple, j'ai une grande conviction. Cette nouvelle génération, très consciente, c'est une génération qui est très consciente de ses droits, de ses devoirs. C'est-à-dire que si on prend, il y a des jeunes maintenant qui traversent la Méditerranée et qu'on perd en Méditerranée et qu'on pleure. C'est-à-dire, et le problème de l'immigration clandestine est un sujet quand même très brûlant. Mais de l'autre côté, tu as une génération qui a choisi de rester. Il y a des jeunes qui sont même partis à l'étranger pour faire des études et qui sont revenus pour s'installer en Tunisie. Tu vas me dire, c'est une minorité par rapport à ceux qui partent clandestinement. Non, en fait, c'est une génération qui est là, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires. Ce sont des jeunes qui ont choisi de rester, de s'établir en Tunisie, de construire leur projet de vie en Tunisie, de militer pour leurs droits en Tunisie. Et donc forcément, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est même pas tous ces débats politiques ou... Ce qui m'intéresse, quelles sont les réponses qu'on doit donner à ces jeunes-là, qui sont là et qui resteront là? Qu'est-ce qu'on va leur donner comme nouvelle politique publique dans tous les secteurs? Parce qu'on est en 2023, parce que ces jeunes sont très intelligents, c'est des jeunes qui sont complètement ouverts, ils sont très impatients, ils sont pas du tout dans un mindset vrai. On va leur dire, il faut déposer une demande au bureau d'ordre, il faut attendre la décision de la commission. Ils évoluent dans des environnements complètement numériques et donc ils ont de très fortes attentes. Leurs attentes sont énormes, mais moi je pense qu'ils ont l'intelligence aussi de construire, c'est-à-dire que ce sont les vrais acteurs du terrain. Ils sont en train de construire, ils sont en train de nous épater avec des nouveaux projets, avec des nouveaux business models, avec de nouvelles propositions dans tous les secteurs, hein, pas que dans les industries culturelles créatives. Moi, ça m'impressionne. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça. C'est cette énergie tunisienne qui sauve un peu l'image de la Tunisie. Et moi, je pense que tous les changements, tous les chantiers de changement qu'on va conduire en Tunisie, que ce soit au niveau politique, économique et social, je pense que les piliers, les leviers et les moteurs, ce sera cette génération, évidemment, soutenue, accompagnée par leur père. Mais moi, je pense qu'il faut y croire. Il faut y croire qu'il y a quand même une nouvelle génération qui a une vision très intéressante de la Tunisie de demain. Ça, c'est mon sentiment et c'est ma conviction personnelle qui n'engage que moi. Mais moi, j'ai choisi mon choix. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Je me sens toujours jeune. J'ai toujours de l'énergie pour travailler. Et j'ai décidé d'être du côté de cette génération. Et j'ai envie de les accompagner, d'adhérer un peu à leur dynamique, tout en apportant du conseil. Hein, parce que quand on est jeune aussi, on peut tomber dans des euphories parfois qui n'ont pas forcément un impact positif. Et donc moi, mon choix, c'est d'accompagner cette génération en réalisant de l'impact économique, de l'impact culturel, de l'impact social. Parce que ce jeune-là, il est aussi dans un petit écosystème qui est aussi sa famille, sa mère qui est parfois une femme, la paysanne agricole qui milite aussi pour ses droits. Donc c'est tout un réseau un peu de problématiques et de valeurs qu'il faut absolument accompagner. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Hein. C'est comme ça que je sens la Tunisie aujourd'hui. Je n'ai pas envie de quitter mon pays. Je n'ai pas envie de pleurer aussi le pays parce qu'il y a toujours, dans l'histoire des pays, il y a aussi des parenthèses et des phases où on peut ne pas avancer, faire du surplace. Mais à un moment donné, il y a un déclic. Et moi, je pense qu'il viendra de cette nouvelle génération. La génération 22-40 ans, à peu près comme ça.
Merci Shiraz. Et juste une dernière question par rapport à justement cette nouvelle génération et du fait de ton implication dans le système éducationnel en Tunisie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en termes de l'offre pour les jeunes qui désirent produire des films? Est-ce qu'ils ont tous les moyens de développer les compétences qu'ils souhaitent? Et comment est-ce que la Tunisie se positionne en termes de formation au sein du Maghreb ou même du monde arabe plus largement?
Sincèrement, sur le plan de la formation académique, moi, je peux complètement défendre un peu l'offre académique en Tunisie parce que j'ai vécu ça, j'ai été dans la mise à niveau complètement. Et moi, je pense que par rapport à d'autres pays sur le continent, par rapport aux pays africains, on a quand même une offre de formation académique très intéressante entre les deux écoles publiques, l'ISAM et l'ESAC de Gamart, fait qu'on arrive à avoir chaque année des techniciens sur le marché. Et ce que je vois un peu, c'est qu'il y a de l'offre de travail, surtout pour les techniciens, dans toute la chaîne de production. Après, quelle est leur situation? Certes, c'est une situation de freelanceurs, qui n'ont pas forcément la sécurité sociale. Enfin, c'est des contrats un peu. Ils travaillent beaucoup, mais ils travaillent beaucoup dans l'informel, en fait. Et ça, c'est ce qui est un peu triste. Ça, parmi les points qu'il faut absolument organiser au niveau du CNC, c'est des contrats types. Et il faut aussi changer un peu le régime de sécurité sociale qui est dédié pour les artistes, les travailleurs dans le secteur culturel, qui est un régime indépendant, pas du tout intéressant pour les freelanceurs dans le secteur cinématographique. Mais en termes d'offres, il y a une semaine, j'ai été contacté par une association à Madagascar qui veut monter une école de cinéma, qui a envie de faire donc une collaboration avec notre association ELISAM pour pouvoir former des jeunes là-bas. Donc, je pense que la Tunisie, sur ce point-là, on a quand même des formations assez complètes, assez intéressantes. Après, certes, on peut faire mieux, mais il faut plus de moyens aussi. On ne peut pas se comparer à l'INSAS. Hein. C'est-à-dire que le fruit de ces formations, on le voit sur le marché. Quand tu vois que nos techniciens sont sollicités, surtout dans la région MENA, et même en Europe, hein, on a des directeurs photos, des monteurs, des ingénieurs du son. Dans la prod aussi, il y a plein de jeunes qui travaillent. Je ne pense pas qu'on peut se plaindre, hein, par rapport à ça. Non, je suis convaincu qu'on a une formation intéressante.
Et en supposant qu'il y ait plus de moyens, est-ce qu'il y a des sphères particulières, des domaines ou des matières qui mériteraient d'être boostées?
Moi, je pense que si une école elle a plus de moyens, déjà, ils vont faire plus de pratiques, surtout parce qu'on a un problème de matériel. On peut absolument aussi produire plus de films d'étudiants. On peut aussi multiplier les ateliers pratiques. On peut carrément encourager la production. Ça peut être même une prod au sein de l'école, hein, pour les jeunes cinéastes, parce que c'est aussi concentré sur la capitale. Et c'est ça un peu les inégalités d'accès à ces formations-là, c'est d'aller aussi créer des écoles à l'intérieur de la Tunisie, dans les régions au sud, régions de l'ouest, où il y a vraiment aussi un potentiel là-bas pour la production et pour l'industrie de l'image d'une manière générale. Il y a une lumière incroyable, il y a des paysages incroyables, il y a un patrimoine incroyable. La Tunisie, c'est un musée à ciel ouvert, donc avoir des unités de formation et de production couvrant un peu toute la Tunisie, c'est intéressant aussi. Ça peut aussi attirer les productions étrangères. Quand tu as un cluster, par exemple, à Tozeur, forcément, on va voir, ça peut attirer des productions étrangères. Et donc, du coup, c'est une valeur ajoutée, c'est une richesse dans l'écosystème et donc dans l'économie culturelle.
Super, merci beaucoup, Shiraz. Pour clôturer l'entretien, est-ce que... Il y aurait un film coup de cœur tunisien qui soit sorti après la Révolution que tu aimerais inviter nos auditeurs à visionner?
Ah, ça, je ne pourrais pas te répondre parce que moi, je ne suis pas censé donner mon avis sur les films. Moi, par contre, je dirais qu'il faut absolument voir tous les films tunisiens qui sont sortis après la Révolution et même avant la Révolution. Moi, je pense que le film d'auteur tunisien mérite d'être vu. Il faut voir aussi les documentaires, parce qu'on n'a pas tendance à voir tous les docs, et même les courts-métrages. Et je pense que sur la plateforme Artify, il y a beaucoup de films tunisiens après la Révolution, que si vraiment quelqu'un n'a pas pu les voir en salle, je pense qu'on peut les trouver sur cette plateforme.
Super, merci beaucoup Shiraz.
Merci pour votre écoute. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb and Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du CEMAT à www.cematmaghreb.org ou visitez le site web de l'Institut américain des études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.